Attends. Petite tradition protestante, un petit peu de prophète, un petit peu d'évangile, un petit peu d'épître. Donc on va commencer avec le prophète Ézéchiel. Vous pouvez tourner dans vos Bibles au chapitre 34 du prophète Ézéchiel. Juste après Jérémie et les Lamentations. Ceux qui cherchent. Et avant Daniel. Ézéchiel 34. On va lire jusqu'au verset 6. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'Adam, parle en prophète contre les dirigeants d'Israël. Révèle ce que je déclare, moi, le Seigneur Dieu. Le malheur est sur vous, bergers d'Israël. Vous ne prenez soin que de vous-même. N'est-ce pas du troupeau que les bergers doivent prendre soin? Or, vous en prenez le lait pour vous nourrir, la laine pour vous habiller, vous abattez les bêtes les plus grasses. Vous n'agissez pas en berger. Vous n'avez pas rendu de force aux bêtes affaiblies, ni soigné celles qui étaient malades. Vous n'avez pas pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient écartées du troupeau, ni recherché celles qui étaient perdues. Mais vous avez exercé votre pouvoir avec violence et brutalité. Alors, ces bêtes qui n'avaient personne pour les conduire se sont dispersées et elles sont devenues la proie des animaux sauvages. Oui, elles se sont dispersées. Les bêtes de mon troupeau sont allées se perdre sur les montagnes et les collines, puis elles ont été dispersées sur toute la surface de la terre sans que personne se soucie d'elles ou aille les chercher. Deuxième lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 4. Versets 16, 21. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures. Et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour son service, afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le retour à la vue, pour libérer les opprimés et pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire, eh bien, ce passage de l'Écriture est accompli aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. Et un dernier texte dans la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 26, pardon, chapitre 1, verset 26. Un Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 31. Considérez, frères et sœurs, qui vous êtes, vous que Dieu a appelés. Il y a parmi vous, du point de vue des humains, peu de sages, peu de puissants, peu de personnes de nobles origines. Au contraire. Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce qui est bas, méprisable ou qui ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut faire le fier devant Dieu. Mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ et il a fait du Christ notre sagesse. C'est lui qui nous rend justes devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu et qui nous délivre du péché. Par conséquent, comme le déclarent les Écritures, si quelqu'un veut faire le fier, qu'il mette sa fierté dans ce que le Seigneur a fait. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. L'Esprit a bien fait les choses dans la thématique que Joël a reçue, choisie de la part du Seigneur et l'articulation que je vais pouvoir faire avec mon texte. J'ai envie de parler de la faiblesse, nos faiblesses, du fait d'être faible au milieu des autres. Et vous l'aurez peut-être déjà compris parce que le lien qui se fait entre les trois passages bibliques que j'ai choisis pour la prédication de ce matin, c'est le fait que certains en dominent d'autres. Être faible au milieu des autres, est-ce que c'est quelque chose de facile, de difficile, de sûr ou de dangereux, quelque chose de bienvenu ou quelque chose à éviter? Est-ce quelque chose de fécond ou quelque chose qui complique une situation ou une relation? Comment sommes-nous, nous chrétiens, appelés à vivre notre faiblesse dans ce monde et dans l'Église? Je ne vous cache pas que, en ce moment, moi-même, je me sens faible. Et comme il m'arrive souvent de prêcher un sujet que je traverse, que j'étudie ou que j'affronte, je vous parle de ce que j'apprends avec le Seigneur. Alors prenons le temps de nous pencher sur ces trois textes. Découvrons ce qui s'en dégage pour nous aujourd'hui. Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel est un prophète du peuple de Dieu appelé par l'Esprit à parler au nom de Dieu à son peuple à un moment sombre de son histoire. Le peuple avait été vaincu déjà une fois par l'Empire babylonien et une large part de Juifs a été emmenée en exil à Babylone, les riches dont nous a parlé Joël dans sa liturgie. Cette défaite était une sentence de Dieu envers son peuple qui s'était détourné de lui et de la mission qu'il avait reçue de bénir les nations du monde. Le passage que nous avons lu s'inscrit dans une annonce heureuse. Dieu va envoyer un nouveau roi pour son peuple qui, lui, sera juste et bon. Mais avant cette annonce heureuse, Ézéchiel condamne les agissements des souverains actuels juifs de l'époque, en résumant le type de chef de berger qu'ils ont été pour le peuple. Eh bien, ils ont été des bergers qui se sont engraissés en dévorant leurs propres bêtes, en s'habillant de leur laine, en dominant sur eux avec violence, au point où les moutons ont fui de toutes parts et qu'à présent ils sont disséminés partout, en proie à toutes sortes de prédateurs. Ce sont les pires bergers, ce sont les anti-bergers qui font l'inverse de ce qui est attendu de eux. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient et celles qui étaient perdues. Un des rôles de ces chefs était de prendre soin des faibles, des malades, des blessés et d'aller chercher les perdus. Autrement dit, un véritable chef, un dirigeant, selon le cœur de Dieu, a un souci particulier pour ceux qui sont vulnérables. Aux yeux de Dieu, ces personnes devraient trouver dans le royaume de Dieu un refuge, un lieu de vie où ils se sentiraient particulièrement en sécurité, secourus ou protégés. Or, ce fut l'inverse qu'ils ont vécu. Nous pouvons bien noter que Dieu regarde les faibles avec compassion, tendresse. Il est lui-même un berger qui veut prendre soin des faibles et aime les dirigeants, les chefs, les responsables qui ont les mêmes dispositions de cœur envers ceux qui lui sont soumis. D'ailleurs, nous lisons dans l'évangile de Luc un récit où Jésus arrive un jour de sabbat à la synagogue. En gros, il va à l'église pour nous. Et selon la tradition, la Torah est lue par diverses adulte, homme, et il reçoit le rouleau et lit dans le prophète Ésaïe une annonce de la venue du Messie. Les rabbins avaient bien compris que ce passage s'adressait au Messie, au libérateur promis par Dieu. Et Jésus, ce jour-là, lit le passage et conclut en disant, ben, vous voyez ce passage de l'Écriture, aujourd'hui, alors que je vous parle, parce que je vous parle, il s'accomplit. C'est de moi qu'il parle. Il ne le dit pas comme ça, mais il le sous-entend. Voici ce qui est dit de ce Messie, justement, annoncé par Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour son service, afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers, aux aveugles le retour de la vue, libérer les opprimés et annoncer une année de faveur de la part du Seigneur. J'imagine que vous comprenez l'écho entre le passage de Ézéchiel et le passage de Luc. Le Seigneur vient, et lorsqu'il vient, sera-t-il un chef qui élèvera les puissants et les forts et soumettra les faibles et les pauvres, ou va-t-il au contraire prendre soin des faibles et des pauvres pour rabaisser l'orgueil des puissants? L'Esprit de Dieu lui confie particulièrement cette mission. Et c'est ce qu'il va faire. Vous ne trouverez jamais Jésus en train de parler durement à qui que ce soit de faible ou de vulnérable. Mais oui, il le fera aux orgueilleux, aux puissants et aux prétentieux qui dominent avec violence. Enfin, la lettre de Paul aux Corinthiens. Dans cette lettre, Paul reprend une église qui dévie de sa vocation. Il y a des querelles internes qui la divisent. Des enseignements mauvais se répandent dans la communauté, si bien que les faibles y sont écrasés. On le voit très bien, particulièrement, dans le passage où Paul se fâche contre l'Église quant à la manière dont ils vivent les repas fraternels. À Corinthe, pas de partage. Chacun mange sa part. Certains ont trop à manger quand d'autres font face à une assiette vide. Certains s'enivrent d'alcool quand d'autres n'ont rien à manger. Une église de forts, une église d'élite, une église de dominants, de moi d'abord et de moi je sais. Dans le passage que nous avons lu, Paul les invite à considérer l'approche de Dieu en contraste avec l'approche du monde. Comment Dieu s'y prend et comment le monde s'y prend ? Relisons ce passage. Considérez, frères et sœurs, qui vous êtes, vous que Dieu a appelé. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de personnes de noble origine. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce qui est bas, méprisable, ou qui ne vaut rien aux yeux du monde, pour détruire ce que celui-ci estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut faire le fier devant Dieu, mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ, et il a fait du Christ notre sagesse. C'est le Christ qui nous rend juste devant Dieu, et qui nous permet de vivre pour Dieu, et qui nous délivre du péché. Par conséquent, comme le déclare l'Écriture, si quelqu'un veut faire le fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Qu'est-ce que Paul veut nous faire comprendre ? Certainement, les Corinthiens avaient compris une bonne part du message de l'Évangile. La délivrance de Dieu en Jésus-Christ, le péché et la mort. Jésus est mort pour mes péchés, je suis délivré, j'irai au paradis. Mais ils en ont corrompu le fruit de cette délivrance. Ils font exactement comme le peuple de Dieu au temps d'Ézéchiel. C'est-à-dire, après avoir reçu le pays promis pour vivre libre, le peuple d'Ézéchiel s'est intéressé à ressembler aux autres nations plutôt qu'à ressembler à Dieu lui-même. Il a cherché à imiter leurs méthodes, leur façon de vivre, de régner, de construire une armée, un pouvoir politique. Au final, il a adopté leur religion. De même, les Corinthiens, après avoir reçu le salut en Christ, transforme l'Église du Seigneur en une réplique de ce qui passait dans le monde extérieur. Plutôt que de s'émerveiller de ce que Dieu délivre des pauvres, des faibles, ceux qui ne sont pas sages aux yeux du monde, et leur donne le royaume entier, ils se comportent entre eux en cherchant le pouvoir, la gloire, la supériorité. Exactement comme ceux, eh bien, qui ne cherchent pas de salut en Christ. Résultat, les faibles sont écrasés, les pauvres y sont humiliés, et le royaume de Dieu, eh bien, recouvert d'un sorte de voile opaque confus qui le rend inaccessible. Parce qu'entre l'évangile qui est proclamé et la vie d'église qui est menée, il y a un gouffre. Alors, quelle place y a-t-il dans l'église de Jésus-Christ pour la faiblesse ? Certainement pas la même que dans notre monde à nous. En fait, une grande place lui est accordée. Mais en réalité, cela ne va pas toujours de soi. L'Église est appelée, elle devrait être un endroit où l'on peut être en faiblesse et en sécurité. Vulnérable et confiant. Mais malheureusement, il arrivera que lorsqu'on y est faible, eh ben, on se fasse dominer ou écraser ou manipuler. Or, si l'Église écrase et méprise les faibles, c'est qu'elle cherche à ressembler non pas au Seigneur, mais à la gloire des systèmes dont a parlé Joël, dominant ce monde. Il faut qu'elle s'en détourne et regarde à son Seigneur, le Christ. Lui, qui est devenu faible, tout Dieu qu'il était, pour nous sauver. Il nous attire à lui et nous montre qu'il veut tirer sa gloire, il veut tirer son honneur de personnes faibles et folles aux yeux du monde. À qui voulons-nous ressembler ? Comment voulons-nous être reconnus dans l'Église ? Si l'Église ressemble à Christ et se laisse façonner par elle, si les faibles y sont comme libres au milieu de l'Église, personne ne pourra dire de cette Église « Ah oui, non, mais eux, c'est parce qu'ils sont riches, ils ont plein d'argent. » Ou « Ah non, mais eux, c'est parce qu'ils ont plein de cadres supérieurs, de machin. » « Ah, mais c'est parce qu'eux, ils sont bien localisés près du centre-ville. » Non, si cette Église grandit et prospère, c'est parce que le Seigneur y est à l'œuvre et que personne ne cherche à prendre la première place qui est la sienne. Que faire de notre faiblesse, de nos faiblesses, ou de nos passages de faiblesse? Si Dieu veut se glorifier dans nos faiblesses en montrant comme lui il est capable d'agir, d'établir, de faire grandir son royaume à travers nous, en faisant un pied de nez aux sages de notre temps, peut-être nos faiblesses ne devraient pas rester dans l'ombre. Certainement, elles ne pourront jamais être une justification pour nos péchés. Certainement, elles ne doivent pas être une excuse pour nos irresponsabilités ou nos négligences, notre égoïsme. Cependant, vécues dans la lumière, elles seront une occasion de grandir en Christ, de bénir et d'être béni, de servir et d'être servi par les autres, de consoler et d'être consolé, et d'apprendre à traverser les épreuves de la vie, non pas seuls, mais unis, attachés au Christ et les uns avec les autres. Certainement aussi, cela sera un acte de foi, souvent, que de faire confiance à l'Église du Seigneur, comme on a envie de faire confiance au Seigneur. C'est par elle que Dieu veut se rendre visible au monde. Et c'est sa décision, c'est son idée, c'est pas la nôtre. Moi, je trouve ça complètement taré. Mais son projet, c'est de se glorifier et que sa folie paraisse comme plus sage que la sagesse des hommes, et que sa faiblesse à travers nous paraisse comme plus certaine et plus forte que la plus grande puissance des hommes. L'Église, une folie glorieuse, dont nous sommes les témoins, les faibles témoins, qui avons constamment besoin de lui et les uns des autres pour tenir et avancer. Alors, je loue Dieu. Je le remercie. Je dis qu'il est génial, un peu fou, mais incroyable d'avoir choisi ce chemin, d'avoir aimé ce chemin pour se révéler au monde. Oui, j'aime ce Dieu qui veut montrer sa puissance en bâtissant l'Église avec les faibles et les fous de ce monde. L'Église, l'Évangile, est un bel Évangile parce qu'il ne veut pas faire de nous des espèces d'élite supérieure, une pyramide dans laquelle nous nous battrions tous pour avoir la première place tout au sommet. Nous sommes rachetés, nous sommes délivrés de cette course éperdue à la gloire humaine. Nous sommes affranchis, nous sommes placés dans une autre course. Non pas pour pouvoir dominer les autres, parce que Jésus est venu pour sauver les perdus, il est venu pour guérir les malades, il est venu pour libérer les captifs. Qu'il n'y ait donc personne dans l'Église se pavanant en prince, en conquérant et en propriétaire, mais des frères et des sœurs sauvés de toute nation, de toute langue, des disciples de Jésus qui sont tous en chemin et dont aucun n'est parvenu au sommet. Et puissions-nous trouver au sein de l'Église, à l'image de notre Christ, un lieu où nous oserons être faibles sans peur que d'autres profitent, abusent, saisissent l'occasion, mais qu'au contraire, nous apprenions à nous faire confiance pour nous bénir, ne pas nous juger et nous aider à porter les fardeaux les uns des autres. Et que nos faiblesses posées dans sa lumière, à lui, nous offrent encore plus d'occasions de le louer, lui et lui seul. Amen.